Chapitre 15. Fanette a couru comme tous les jours à la sortie de l'école. Elle a lâché les autres enfants de la classe, puis joué à cache-cache dans les ruelles de Giverny pour ne pas croiser à nouveau Vincent, Camille ou Marie. C'est trop facile. Elle connaît toutes les ruelles par cœur. Une nouvelle fois, Paul voulait l'accompagner. Rien que lui, pas les autres. Il lui a dit qu'il ne voulait pas la laisser seule à cause de ce criminel qui pourrait se promener dans les rues. Mais elle a tenu bon. Elle n'a rien dit. C'est mon secret. Ça y est, elle est presque arrivée. Elle passe le pont, le lavoir, ce vieux moulin biscornu avec cette tour qui lui fait peur.
Je te jure, Paul, demain, je te dis qui c'est mon rendez-vous secret tous les jours depuis une semaine. Je te le dis demain. Ou après-demain.
Fanette continue, s'avance dans le chemin en direction de la prairie. James est là. Il se tient debout un peu plus loin, dans le champ de blé, dont les épis lui arrivent au-dessus des genoux, juste au milieu de quatre chevalets de peinture. Fanette s'avance à pas de velours.
« C'est moi !»
Un grand sourire déforme la barbe blanche de James. Il serre Fanette dans ses bras, un court instant.
« Allez, vite, la chipie, au travail. Il ne reste pas beaucoup d'heures de lumière. Elle se termine beaucoup trop tard, ton école. »
Fanette s'installe à l'un des chevalets, celui que James lui prête, le plus petit, bien adapté à sa taille. Elle se penche vers la grande boîte de peinture en bois verni et se sert en tube et en pinceau. Fanette ne sait pas grand-chose du vieux peintre qu'elle a rencontré il y a une semaine, sauf qu'il est américain, qu'il s'appelle James, qu'il peint ici presque tous les jours. Il lui a dit qu'elle était la fille la plus douée en peinture qu'il ait jamais vue. Et il en a connu plein dans le monde entier. Il a été professeur de peinture aux États-Unis, aussi, qu'il raconte. Il n'arrête pas de lui dire qu'elle parle tout le temps, et que même si elle est très douée, elle doit se concentrer davantage. Comme Monet, elle doit savoir observer et imaginer. C'est sa rengaine, ça, à James. Observer et imaginer. Et peindre vite aussi. C'est pour cela qu'il transporte quatre chevalets, pour pouvoir peindre aussitôt que la lumière se pose sur un coin de paysage, aussitôt que les ombres bougent, que les couleurs changent. Il lui a dit que Monet se promenait avec six chevalets dans les champs. Il payait des enfants de son âge pour tout porter, tôt le matin et tard le soir. Ça, c'est n'importe quoi. C'est une combine de James pour qu'elle aussi, elle porte ses affaires. Elle l'a bien deviné, mais elle fait semblant de le croire. James, il est gentil. Mais il a un peu trop tendance à se prendre pour le vieux Monet. Et à me prendre pour une idiote.
Rêvasse pas, Fanette. Peins.
La fillette essaye de reproduire le lavoir normand, le pont sur le ruisseau, le moulin à côté. Elle peint déjà depuis de longues minutes.
Tu sais qui c'est, toi, Theodore Robinson? La maîtresse nous en a parlé.
Pourquoi?
Elle a inscrit la classe à un concours. À un concours mondial, monsieur James. Oui, oui, mondial. Le prix Robinson. Si je gagne, je pars au Japon, ou en Russie, ou en Australie. Je vais voir. J'ai pas encore décidé.
Rien que ça?
Et je te parle même pas des dollars.
James pose doucement sa palette sur sa boîte de peinture. Sa barbe, à un moment ou un autre, elle va tremper dans la peinture, comme tous les jours. Verte aujourd'hui.
Je suis un peu vache. Je lui dis jamais quand il a les poils de la barbe pleins de peinture. Ça me fait trop rire.
James s'approche.
Tu sais, Fanette, si tu travailles vraiment, si tu y crois, tu as une vraie chance de le gagner, ce concours.
Là, il me fait un peu peur.
James doit s'apercevoir que Fanette louche sur sa barbe. Il passe son doigt, il étale un peu plus la peinture verte.
« Ne fais pas marcher. »«
Je ne te fais pas marcher, Fanette. Je te l'ai déjà dit, tu as un don. Tu n'y peux rien, c'est comme cela, tu es née avec. Et tu le sais bien d'ailleurs. Tu es douée pour la peinture. Plus que ça même. Un petit génie dans ton genre. Mais tout cela ne sert à rien si... »«
Si je ne travaille pas, c'est ça ?»«
Oui. » Il faut travailler, c'est indispensable, bien entendu. Sinon le talent, pssst, Mais ce n'est pas cela que je voulais te dire. »
James se déplace lentement. Il cherche à enjamber les épis de blé pour ne pas les écraser. Il change de place un chevalet, comme si brusquement le soleil là-haut avait piqué un sprint.
« Ce que je voulais te dire, Fanette, c'est que le génie ne sert à rien si l'on n'est pas capable de... Comment t'expliquer ça? Capable d'égoïsme.
Quoi? James, parfois, il raconte n'importe quoi.
D'égoïsme, ma petite Fanette. Le génie emmerde tous ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire presque tout le monde. Le génie t'éloigne de ceux que tu aimes et rend jaloux les autres, tu comprends?
Il se frotte la barbe. Il s'en fout partout. Il ne s'en rend même pas compte. Il est vieux, James. Vieux, vieux, vieux. Non, je comprends rien.
Je vais t'expliquer autrement. Tiens, si je prends mon exemple, c'était mon rêve absolu. Venir peindre à Giverny, découvrir en vrai les paysages de Monet. Tu ne peux pas imaginer dans mon village du Connecticut les heures que j'ai passées devant les reproductions de ces toiles. Combien de fois j'en ai rêvé. Les peupliers, l'Epte, les nymphéas, l'île aux orties. Tu crois que cela valait le coup de laisser là-bas ma femme, mes enfants, mes petits-enfants à 65 ans? Qu'est-ce qui était le plus important? Mon rêve de peinture ou passer Halloween et Thanksgiving avec ma famille?
Ben...
Tu hésites, hein? Eh bien, moi, je n'ai pas hésité. Et crois-moi, Fanette, je ne regrette rien. Pourtant, je vis ici comme un clochard, ou presque. Et je n'ai pas le quart de ton talent. Tu vois ce que je veux dire, alors, quand je dis égoïste? Qu'est-ce que tu crois? Les premiers peintres américains qui ont débarqué à l'hôtel Bodhi du temps de Monet, tu penses qu'ils n'ont pas pris des risques, eux aussi? Qu'ils n'ont pas dû tout quitter?
Oh, j'aime pas quand James se met à parler comme ça. Ça me fait comme s'il pensait exactement l'inverse de ce qu'il dit. Comme si en vrai, il regrettait. Il s'ennuyait à mort. Comme s'il pensait tout le temps à sa famille en Amérique.
Fanette attrape un pinceau.
Bien, monsieur James. Je m'y remets, moi. Désolée de la jouer égoïste, mais j'ai un concours Robinson à gagner.
James éclate de rire.
Tu as raison, Fanette. Je ne suis qu'un vieux fou grognon.
Et Gaga, tu ne m'as même pas dit qui était Robinson.
James s'avance, observe le travail de Fanette, plisse les yeux.
Theodore Robinson est un peintre américain, l'impressionniste le plus connu chez moi, aux États-Unis. Il est le seul artiste américain à être devenu l'ami intime de Monet. Claude Monet fuyait les autres comme la peste. Robinson est resté 8 ans à Giverny. Il a même peint le mariage de la belle-fille préférée de Claude Monet, Suzanne, avec le vieux peintre américain Theodore Butler. Et, c'est très étrange, Fanette, un autre de ses tableaux les plus célèbres représente très exactement la scène que tu es en train de peindre.
Fanette manque de lâcher son pinceau.
Quoi?
La même scène. Comme je te le dis. Il s'agit d'un vieux tableau de 1891. Un tableau célèbre qui représente le rue de l'Epte, le pont au-dessus, le moulin des Chenevières. En arrière-plan, on voit une femme en robe, les cheveux noués dans un foulard. Et au milieu du ruisseau est peint un homme qui fait boire son cheval. C'est le titre du tableau d'ailleurs. Père Trognon and his daughter at the bridge. Il s'appelait comme cela, le cavalier. C'était un habitant de Giverny, le père Trognon.
Ce coup-là, Fanette se retient pour ne pas rire.
Des fois, James, il me prend vraiment pour une gourde. Le père Trognon, n'importe quoi.
James observe toujours la toile de la fillette. La barbe du vieux peintre lui descend presque sous les yeux. Son gros doigt passe à quelques millimètres de la peinture encore humide.
C'est bien, Fanette. J'aime beaucoup les ombres autour de ton moulin, c'est très bien. C'est un signe du destin, Fanette. Tu peins la même scène que Theodore Robinson, beaucoup mieux que lui, je dois dire. Fais-moi confiance, tu vas le gagner, ce concours. Une vie, tu sais, Fanette, c'est juste 2 ou 3 occasions à ne pas laisser passer. Ça se joue à ça, ma jolie, une vie. Rien de plus.
James repart déplacer ses chevalets. À croire qu'il passe plus de temps à bouger ses toiles qu'à peindre dessus. À croire que le soleil est plus rapide que lui. Il n'a pas de mal. Il s'est écoulé presque une heure lorsque Neptune vient les rejoindre. Le berger allemand renifle avec méfiance la boîte de peinture, puis se couche au pied de Fanette.
« Il est à toi, ce chien ?»
demande James.
« Non, pas vraiment. Je crois qu'il est un peu à tout le monde dans le village, mais je l'ai adopté. C'est moi qu'il préfère. »
James sourit. Il s'est assis sur un tabouret devant un des chevalets, mais à chaque fois que Fanette l'observe, c'est pour le voir piquer du nez devant sa toile. Sa barbe ne va pas tarder à finir arc-en-ciel. Elle attend le bon moment pour rire.
« Non, non, je dois me concentrer. »
Fanette continue son étude du moulin des Chenevières. Elle tord les formes de la petite tour au colombage, renforce les contrastes, l'ocre, la tuile, la pierre. Le moulin, James l'appelle le moulin de la sorcière, à cause de la vieille qui y habite. Une sorcière.
Des fois, James me prend vraiment pour une gamine.
Sauf que Fanette a un peu peur quand même. James lui a expliqué pourquoi il n'aime pas trop cette maison. Il dit qu'à cause de ce moulin, les nymphéas de Monet ont failli ne jamais exister. Le moulin et le jardin de Monet sont construits sur le même ruisseau. Monet voulait faire un barrage, poser des vannes, détourner l'eau pour créer son étang. Personne n'était d'accord dans le village, à cause des maladies, des marécages, tout ça. Surtout pas les voisins. Surtout pas les habitants du moulin. Ça a fait des tas d'histoires. Monet s'est fâchée après tout le monde, a donné plein d'argent aussi, a écrit au préfet, à un type qu'elle ne connaît pas aussi, un copain à Monet, Clémenceau qu'il s'appelle. Et il a fini par l'avoir, Monet, son étang au nénuphar. Ça aurait été dommage.
Mais c'est quand même idiot de la part de James de ne pas aimer ce moulin pour ça. Cette bagarre de barrage entre Monet et ses voisins, c'était il y a super longtemps. Il est idiot des fois, James.
Elle frissonne. Sauf si le moulin est réellement habité par une sorcière. Fanette travaille encore de longues minutes. La lumière tombe. Ça rend plus sinistre encore le moulin. Elle adore. James, lui, dort depuis longtemps. Soudain, Neptune se lève en sursaut. Le chien grogne méchamment. Fanette se retourne en un bond vers le petit bosquet de peupliers juste derrière elle et surprend la silhouette d'un garçon de son âge. Vincent, le regard vide.
« Qu'est-ce que tu fiches là ?»
James se réveille, lui aussi en sursaut. Fanette continue de crier.
« Vincent, je déteste quand t'arrives comme un espion dans mon dos. T'es là depuis combien de temps ?»
Vincent ne dit rien. Il scrute le tableau de Fanette, le moulin, le pont. Il semble hypnotisé.
« J'ai déjà un chien, Vincent. J'ai déjà Neptune. Ça me suffit. » Et arrête de me regarder comme ça, tu me fais peur.
James tousse dans sa barbe.
Bon, les enfants, ça tombe bien que vous soyez deux. Vu la luminosité, je crois qu'il est temps de replier le matériel. Vous allez m'aider. Monet disait que la sagesse, c'est de se lever et se coucher avec le soleil.
Fanette n'a pas quitté Vincent des yeux.
Il me fait peur, Vincent, quand il surgit comme ça de nulle part, dans mon dos. Comme s'il m'espionnait. Des fois, j'ai l'impression qu'il est fou.